J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue à cette première émission de Pop en stock pour l'année 2017. Et on pensait pour cette première année, faire une espèce de recap de 2016 en parlant d'un des points importants de l'année, c'est-à-dire l'espèce d'hécatombe des célébrités qui sont décédées au courant de l'année. On pourrait faire un décompte vraiment très exhaustif, mais j'ai fait un petit décompte pas exhaustif et ça m'en a donné 18, ce qui est quand même vraiment pas mal. J'ai lu aussi dans les recherches que j'ai faites pour l'épisode que le responsable des nécrologies de célébrités de la BBC, ça passait comme de 7 à 15 à 22 cette année. Ce qui était 22, j'imagine, c'est quand même des célébrités qu'on a dû trier sur le volet, parce que juste aussi au sac de chips, on a trouvé comme 35, 36 célébrités très facilement. Moi, j'en ai répertorié 18 en partant avec David Bowie, voilà un an jour pour jour, dont on a su en fait le décès, mais il est décédé la veille, le 10 janvier. René Angélil, le 14 janvier. Alan Rickman, la même journée.
C'est plate à se faire.
On savait des.
C'est ce qui est arrivé, je pense, avec Farrah Fawcett.
Oui, aussi.
Et Michael Jackson,
ouais.
Oui. Glenn Frey, des Eagles, que tout le monde a oublié depuis ça.
On me l'a rappelé aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment, c'est vrai, j'avais complètement oublié.
Roger Tabra, notre Roger Tabra national, le 11 mars. Et bon, je pourrais continuer jusqu'à George Michael, le 25 décembre, et Carrie Fisher. Le 27 décembre.
Et tous ceux qu'on pensait qu'ils étaient déjà morts et qu'on a finalement su qu'ils mouraient en 2016.
Comme Arnold Palmer. Arnold Palmer, le golfeur. Moi, je savais pas qu'il était encore en vie.
Il y a une ligne de vêtements, pourtant, à son
mais
nom. Puis,
on n'en parle pas beaucoup dans les hécatombes, mais la trollée des personnes de... Voyons, l'accident d'avion du cœur de l'armée rouge, tu sais, c'est pas une personne, c'est comme une entité, mais c'est, tu sais, qui arrive juste à la fin de l'année où on n'arrête pas de nommer justement le phénomène de l'hécatombe de 2016, la faucheuse qui a été très avare d'aller chercher des vies à gauche et à droite, puis là, à la fin de l'année, qui te pogne comme 49 personnes d'un coup, je me rappelle pas exactement du chiffre, mais ouais, c'est symboliquement, c'est fort quand même de voir ce cœur-là se dissimuler.
Oui, absolument, c'était fort. Vous avez reconnu probablement les voix de Elizabeth Simpson, qui est l'animatrice de Les Amazones ici à Choc, et aussi une co-animatrice du Boudoir des Imparfaits à CISM.
Animatrice
principale? Oui, désolée, c'est mon erreur.
Grave, c'est pas grave.
Du Boudoir des Imparfaits à CISM, parce que à Choc, on n'hésite pas à plugger la compétition. Et
compétition.
C'est ça, précisément. Ouais. Jean-Michel Bertion, mon co-animateur, et qui est présent aussi.
Dit-on.
Oui,
ouais,
okay,
la rumeur court que je suis présent.
Oui, c'est bien. C'est peut-être ton fantôme, autrement dit, c'est le fun. Moi, j'aime ça, cette...
J'espère qu'on n'en prendra pas l'année prochaine, que t'étais pas là pour vrai.
intéressant thème récurrent dans mon existence, la virtualité de ma personne. Fait que non, good shot, Hélène.
Et Nadia Serra-Yoko, donc c'est la première présence.
Oui,
je suis extrêmement heureuse qu'on a comme un recruté comme une chroniqueuse à Radio-Canada, genre, avec nous.
T'as toutes les primeurs, hein, je veux juste le dire, là, en tant qu'émission. En tant qu'épisode, c'est toi qui reçois toutes les nouvelles personnes cool en premier.
Ah, c'est vrai que ça arrive souvent.
Ouais, fait que...
C'est mon talent de recruter.
Ouais, mais moi, c'est pas moi qui l'ai reçu en premier, c'est toi.
Yes!
C'est parce qu'Hélène est vite sur la gâchette, dois-je le dire, hein? Quand quelqu'un a mentionné que peut-être je pouvais vous parler de la mort, ça n'a pas été long que j'ai eu un petit message.
En effet. J'écris rapidement. Donc, Nadia Serra-Yoko, chargée de cours et chroniqueuse, médias numériques et société, aussi doctorante, moi je le dis.
Oui.
Mais doctorante aussi, Elisabeth aussi. Elle est étudiante en philosophie.
En philosophie.
Voilà. Et Nadia.
Oui, doctorante aussi en communication à l'UQAM.
Et donc, on va parler de la mort, la mort des personnes célèbres, la mort de célébrités.
Oui.
Je vais faire ma première chronique. Je vais introduire un peu le sujet parce que à la fin de l'année, je pense qu'il était pas mal écœuré particulièrement sur les réseaux sociaux. Il disait, particulièrement par rapport aux morts de George Michael et de Carrie Fisher, ça sert à rien, là. Arrêtez de faire du deuil, de célébrité dans le vide. Et le monde continue à mourir pareil. Il y a une explication démographique. C'est la génération des baby boomers, puis ils commencent à vieillir. Donc, ça va juste continuer, là. Bon. Et ça m'a vraiment interrogée sur la validité, finalement, d'être en deuil d'une célébrité. Mm. Parce que moi, à l'ère des réseaux sociaux, je sais que Nadia, tu vas davantage nous parler des réseaux sociaux, mm-hmm. mais même plus généralement, être en deuil d'une célébrité, est-ce que c'est plus valide, moins valide? Est-ce que c'est plus réel, moins réel qu'être en deuil d'un ami?
Plus grand, hein, c'est oui. ça, ouais.
Puis si je peux me permettre aussi, la mort des... J'en parlais hors d'onde, mais la mort des célébrités qui m'a le plus touchée en 2016, c'est celle de David Bowie. Mais c'est que souvent, ces célébrités-là, Il y a oui la célébrité, mais il y a le symbole qui vient avec le mm-hmm. personnage de la célébrité. C'est pas un secret, je le cache pas, mais je fais partie de la communauté LGBTQ. Puis David Bowie a été un symbole de libération de cette communauté-là, un des porteurs de drapeau de cette communauté.
Un briseur de stéréotypes.
Exactement,
aussi,
effectivement. Puis c'est quelque chose. Quand je suis allée à Londres en 2013, si je ne m'abuse, et que j'ai vu l'exposition sur David Bowie, mm-hmm. Ça l'a beaucoup. C'est un personnage que j'aimais pour sa musique. J'avais vu Labyrinthe, je l'avais vu dans d'autres rôles, mais là j'ai vraiment compris le personnage et j'ai compris aussi son apport au niveau politique pour la communauté LGBTQ. Même si toutes les rumeurs qui circulaient sur sa bisexualité s'avéraient probablement fausses.
Mais ce qui est amusant quand même, Elisabeth, c'est qu'il les laissait circuler. Oui. Il a jamais nié parce que ça avait pas l'air d'être quelque chose pour lui qui était important de nier ces rumeurs-là. S'il pouvait être photographié avec une robe puis des bottes de fille, puis que ça y faisait bien, il était comme, ben, alors, faisons-le, tu sais.
Voilà, exactement, puis c'est je pense qu'il y a la célébrité, mais il y a ce symbole-là, ce que cette personne-là représente pour les gens, tu sais, mm-hmm. Le décès d'un politicien aussi pour avoir cet impact-là, si c'est quelqu'un qu'on a suivi l'œuvre ou qu'on a suivi le travail, l'apport à la société, tout ça, je sais pas si c'est toujours valide, je sais pas si et de facto
mais,
on n'est pas touché.
Parce que là, touchés. C'est comme tu coupes toute ma chronique là.
Hey, je suis vraiment désolée.
Fait, attends, je vais aller une étape à la fois.
Je m'étais.
En fait, moi, je pense que c'est valide d'avoir un deuil de célébrité. Mm. Puis dénoncer en disant « ressaisissez-vous, petit peuple », tout ça. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment assez mal connaître les relations fan-célébrité mm-hmm. ou même juste la logique de la culture de la célébrité aujourd'hui. D'abord, il y a un investissement des fans par rapport à leurs idoles qui peut prendre plusieurs formes, la projection, l'identification, l'admiration, etc. Et dans le cas de David Bowie, on l'a beaucoup vu, il y avait tous les symboles que David Bowie a pu représenté dans sa vie et toute cette projection-là qu'il y avait de la part de plusieurs fans à travers le monde. Et deuxièmement, de la logique de la culture de la célébrité, il y a une grande partie du monde social qui est organisée, orientée autour de l'existence de ces, entre guillemets, personnes extraordinaires que sont les célébrités. Qui ne sont pas si extraordinaires, c'est une construction, mais on mm-hmm. les construit ainsi. Donc, quand une célébrité meurt, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment le droit de mourir. Puis c'est ça, ouais. C'est là que ça devient comme vraiment difficile à parler peut-être en public ou à dealer en public. Parce que autant de niveau personnel que collectif, c'est comme si les célébrités ne pouvaient pas mourir. Personnellement, ils ne peuvent pas parce qu'il y a les relations avec les fans qui sont les fans qui sont en relation avec leurs idoles qui sont très très fortes. C'est comme une petite partie de nous qui meurt quand une célébrité meurt, même si on la connaissait pas.
On a l'impression aussi qu'on peut l'invoquer tout le temps, une célébrité. Mm. Tu sais, quand tu veux parler à David Bowie, t'écoutes sa musique et là, le fait qu'il soit mort, tout d'un coup, t'as l'impression qu'il sera plus tout à fait là, même s'il va être encore
ouais,
là avec
c'est
son
ça,
œuvre.
Y a ça.
Et ça, je pense, ça nous choque. Moi, en tout cas, je le sentais comme ça. On a l'impression qu'on peut tout le temps les amener dans notre quotidien, puis qu'ils sont avec nous, puis ils symbolisent toutes sortes de valeurs qui nous sont c'est cher. Puis là, quand tout d'un coup, ils décèdent, ils disparaissent de la surface de notre planète, si on veut, là, tu te dis, oui, ils vont vivre par leur musique, mais c'est pas pareil, parce que là, t'as l'impression que tu les as pu apporter
oui,
comme demain, là, qu'ils sont plus à côté de toi quand t'écoutes la musique
absolument.
Ou leur œuvre, tu sais.
Puis dans les cas de célébrités, particulièrement dans le monde artistique, où il y a une vie qui est nécessaire autour mm-hmm. de ça, cette vie-là, c'est éteinte, c'est une c'est une voix de moins, c'est comme, ils sont pas supposés mourir.
Mais c'est drôle parce que je croyais qu'il y avait une vision aussi de la célébrité que la célébrité apportait l'éternité et qu'ainsi, la mort n'était pas suffisante vraiment pour faire mourir quelqu'un.
Oui, ça, c'est quand on arrive à un autre niveau qu'effectivement, comme juste l'héritage laissé par des musiciens comme David Bowie, Prince,
Leonard Cohen,
ou des actrices comme Carrie Fisher, fait en sorte, des BDistes comme Gottlieb aussi, dont vous allez parler la semaine prochaine, que l'héritage vit à travers ça, que l'artiste peut continuer à vivre à travers ça. Mais comme tu le disais, Nadia, c'est plus pareil.
Il y a quand même une relation qui est brisée. Quelque chose qui s'est brisé, mais aussi, il faut dire, tu sais, les cyniques là, qui nous disent ben, tout le monde meurt. Mm-hmm. Je veux dire, Carrie Fisher n'était pas très vieille pour mourir. Puis David Bowie, pour quelqu'un qui a accès à tous les services de santé, qui est bien, je veux dire, il est mort jeune quand même, relativement. Quand Leonard Cohen est décédé, il était dans les 80, on savait qu'il avait été malade. On est triste, puis on aurait aimé ça qu'il dure plus longtemps.
Surtout qu'il a sorti un album peu de temps avant, là, dans ce cas-ci.
Oui, une semaine avant.
Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, c'était comme un peu quasiment comme David Bowie, c'était presque organisé, on aurait dit comme ça, mais ça nous choque plus. George Michael, franchement,
ça faisait longtemps.
Sérieux, là, le gars, c'est un génération X, même pas un boomer, là, tu sais, fait que c'est vraiment quand on nous dit, ouais, c'est normal, ben non, c'est pas normal de mourir à 53 ans, là.
Non.
Tu meurs quand t'es été malade à cet âge-là.
Qu'est-ce qui a souvent été dit, c'est que ça faisait très longtemps qu'il avait fait quelque chose. Ce qui est vrai, hélas.
Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, je pense qu'il a marqué lui aussi, pas de la même façon que Bowie, mais il a marqué quand même une époque aussi de libération, pas mal,
avec
toute l'œuvre qu'il a fait. Puis, tu sais, je veux dire, c'était clair qu'il était gay, tu sais, puis c'était pas du tout caché. Puis, il y a eu, tu sais, une espèce de, tu sais, de genre, soyons heureux dans notre statut, dans ce qu'on est. Choose life. Écoute, j'ai eu ce t-shirt-là,
C'est le même message que Ricky Martin.
Tu viens vraiment de me donner le kung fu.
Mais quand Ricky Martin est sorti du placard, c'est exactement son message aussi.
Ben, tu sais, je peux comprendre que ça soit un message.
Je pense que la mort de Ricky Martin va peut-être faire moins de tristesse que celle de George Michael.
Je pense qu'on aime plus George Michael pour plein de raisons. Oui. Là, mais en tout cas, bon. C'est pas fin, hein, je suis en train de bitcher sur...
Je pense qu'il t'entendra pas.
OK, c'est correct. C'est bon. Vous me rassurez les filles. Puis le gars.
Ouais, cette émission est retransmise en espagnol aussi.
Est-ce que tu vas parler des morts de 2017 ou je peux faire une parenthèse tout de suite?
Tu peux faire une parenthèse tout de suite.
C'est drôle parce que l'année a commencé, on a fini l'année en disant « Oh non, 2016, t'es mort. »
Oui, en effet.
Et on a commencé l'année 2017 en apprenant la maladie de Charles Manson et qu'il avait presque un pied dans la tombe, qu'il était très malade. Et il y a beaucoup de gens qui ont répondu à cette nouvelle-là en disant sur les réseaux sociaux « Est-ce que 2017 sera l'année des morts qui vont nous faire plaisir? »
Qu'on va pouvoir aller écrire des commentaires de trolls sur leur page Facebook et tout ça.
Je sais pas si Charles Manson a une page
Facebook. J'imagine qu'on pourrait y en faire une. Là, ça se fait une page mémoriale. C'est tellement facile.
Mais c'est ça. Et cette réaction-là m'a beaucoup choquée dans tout plein de sens. Parce que je me suis dit, dans le fond, notre relation avec la mort, elle va dans les deux sens.
Ben
surtout
oui.
Comme, tu sais, ça me rappelait une espèce de, tu sais, un message à la... Et je suis pas sûre qu'il était aussi politique quand les gens sur les réseaux sociaux faisaient ces messages-là très promptement, peut-être avec moins de réflexion, alors que, mettons, quand on avait Pierre Falardeau qui a dit crève pourriture c'était à Pierre-Éliott Trudeau, je pense qu'il avait dit ça.
Probablement.
Ouais, non, je pense aussi, c'était pas quand est décédé, mon Dieu, Ryan.
Ouais, ah,
c'est quand est décédé Ryan, je pense qu'entre autres, il était content qu'il meure, vieille pourriture de en tout cas, il y avait une couple d'insultes religieuses à caractère genre, tu sais, genre le chapeau, la mitre, puis tout le kit, là. Ouais.
Wow!
C'est ça, tu sais,
une mémoire phénoménale, des fois, je te dis.
Puis on a aussi des réactions du genre les apartistes à la mort de Pinochet, qui a dit qu'il voulait que la journée du décès de Pinochet devienne la journée internationale de la sortie des ordures, des choses comme ça.
Puis c'est drôle parce que quand tu nous amènes là-dessus, c'est parce que c'est des questions qui m'intéressent. Est-ce que tu veux qu'on embarque un peu dans mon affaire en même temps ou tu continues?
Moi, je vais juste finir avec une petite affaire. Et collectivement aussi, c'est comme si les stars n'avaient pas le droit de mourir, notamment à cause de leur aspect extraordinaire. Mais aussi parce que le fait qu'ils ont vécu de manière, tu sais, dans les médias,
de manière publique,
dans une vie publique, ça fait comme amplifier un peu le deuil. Ça devient une espèce d'action collective de les avoir en deuil, notamment à cause des nombreuses significations, des nombreuses représentations qu'ils représentent. Et c'est ça qui est vraiment intéressant quand une célébrité meurt, c'est toute la réécriture, l'espèce de ressurgence de signification qui sont faites autour d'eux.
Toi qui est maintenant dans les médias, les fameuses viandes froides qu'on écrit, quand on présume.
Est-ce
là,
que je peux vous dire quelque chose que je ne sais pas si ça va... Tu vas décider si ça va
rester... des viandes froides?
Non, mais on est vraiment en train de capoter sur la reine Elisabeth II, comme on est en train de se mettre en...
Ça, c'est peut-être du wishful thinking, comme on dit en français.
Moi, je pense que ça va être en 2018. Moi, je pense que ça va être en 2018. Je la connais en 2018, la reine.
C'est la couleur de sa robe qui te fait penser ça? Ou...
Non, 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 c'est parce qu'elle est allée dans, elle est à l'hôpital, là, pour son, elle est à l'hôpital, genre, elle a un gros rhume.
Oui.
On a, puis un de nos rédacteurs en chef a vraiment eu peur qu'elle meure. Puis c'était vraiment comme,
puis elle avait pas eu le temps d'écrire sa viande froide.
C'est ça, comme...
Parce que moi, le temps où j'ai travaillé dans les médias, comme tu le fais maintenant, c'était ça, c'était l'idée d'écrire des viandes froides, tu sais, d'écrire, de préparer
avant,
les viandes froides. C'est préparer le texte, justement, où tu fais la légende de, puis tu réécris l'histoire, puis tu mets les beaux moments.
Mais je pense qu'il y a plusieurs, décès cette année qui nous ont vraiment surpris. Prince, George Michael, Carrie Fisher, je pense pas que c'était prêt. En tout cas, c'était pas prêt.
Non, c'est ça, toi qui es là
maintenant. La journée de Noël,
sais,
George Michael, là, il y avait personne au bureau.
Petit coquin, hein? Petit coquin, va.
Comme s'il l'avait prévu.
Oui, c'est ça.
Mais sais-tu à quoi ça me faisait penser ce qu'Elisabeth disait? Est-ce que tu veux que je fasse le lien?
Oui,
allons-y. Là-dessus, c'est parce que tu parlais justement pour cette année qu'on allait peut-être se lâcher un peu plus lousse. Je m'en permets, quand j'étais choc, je pars à Radio-Canada. Je peux dire n'importe
quoi. Ah oui,
c'est correct.
Dieu,
oui, c'est parfait. Je regarde le metteur en onde, il est là, d'accord. OK. Ben, c'est parce que justement, j'ai l'impression que, tu sais, l'espèce de parole libérée qui arrive avec Trump, là, va venir empiéter sur ce domaine-là aussi. Parce qu'on est, très, très politiquement correct. Rappelez-vous, je sais pas, là, moi, je suis vieille. T'sais, fait que là, les debt pools à la fin des années 90, je m'en souviens. Vous rappelez-vous de ça? Je suis sûr que t'es du genre, là, comme mon chum, à avoir déjà fait ce genre d'exercice-là. Des sites web, t'sais, fond noir avec des éclairs. Puis là, chacun, et j'en suivais quelques-uns.
Des éclairs écrits en Comic Sans.
Ouais, t'sais, avec des têtes de mort. Puis là, on mettait qui on pensait qu'il allait mourir en 99.
Mais ça existe encore, là.
Ouais, mais sauf que c'est plus autant couru. Mais dans le temps, c'était vraiment, écoute, dans les médias, là, je veux dire, surtout quand t'étais à la radio, tu disais, hey, dans le debt pools, un tel qui est très populaire, très suivi. On a telle chose, puis là, on sortait ça. Et c'était vraiment pas gentil, les debt pools. C'était une façon de dire, j'espère que, tu sais, moi, je vais gagner mon pari. Là. C'est pas un pool de hockey, cette affaire-là. J'espère que telle personne va mourir cette année. C'est... Je vois Jean-Michel.
Ouais, c'est ça,
je pense que c'est un peu fin pareil.
Non, c'est pas que ça, c'est pas méchant ou l'inverse, c'est juste...
C'était pour s'amuser, mais avoue que c'était...
C'est morbide.
C'est morbide. Ah,
surtout lorsque t'as des points qui sont attribués sur plus la personne est jeune, si c'est un suicide, si c'est un accident.
Exact. Tu sais, ça ressemblait à La course contre la mort, le fameux film, là, puis tout ça. Mais donc, on avait déjà ça, des listes de vedettes comme ça, qui devaient décéder dans l'année suivante. Et là, ensuite, on a commencé à avoir même des cimetières virtuels en ligne, parce que là, c'est la chose qui m'intéresse ces temps-ci, qui ont fait leur apparition dans les années 90. Puis là, quand les réseaux sociaux sont arrivés, là, rappelez-vous, vous avez sûrement, moi, j'ai été MySpace un peu, Friendster, ça, j'avais jamais pogné
là-dessus. ICQ, moi.
Moi aussi, j'étais là-dessus, puis MSN Messenger, puis tu sais, je veux dire, on s'envoyait des émoticônes préhistoriques, puis des affaires comme ça, là. Mais déjà, à ce moment-là, il a commencé... On est rendu en 2002 quand on parle justement de Friendster, de LinkedIn, de MySpace. Et là, en 2004, Facebook commence. 2006, Facebook est ouvert à tous. Twitter est créé cette année-là. Puis qu'est-ce qui arrive 3-4 années plus tard? Ben, il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux que la chose étant telle, les gens meurent. Puis là, sur MySpace, ben, quand quelqu'un meurt, on fait rien. Hein? On laisse son profil là, puis on y va plus. Et sur Facebook, ils sont arrivés à un point où, sérieusement, moi, j'ai peur que Facebook devienne un cimetière. Tu sais, quand il y a quelques personnes qui décèdent, vers 2010, ils ont commencé à dire, et si on faisait des pages mémoire à ceux qui sont décédés? Et là, ça a commencé. Puis là, tout d'un coup, il y a eu des pages mémoire pour des gens connus. Hein? Mais là, c'était... Et ces pages-là, ce qui est particulier, là, c'est qu'ils sont pas faites par... C'est pas toi qui fais ton profil. Je regarde Hélène quand je dis ça. La personne qui
ça
fait son profil...
Ça prend encore du temps, Marc-Claire.
C'est ça. Moi, mais tu sais, je veux dire, quand tu fais ça, là, moi, quand je fais mon profil, je peux dire les commentaires de telle nature, je les enlève, je ne mettrai pas le cœur aujourd'hui. Mais là, tout d'un coup... excusez-moi, je suis tellement méthode dans mes affaires. Mais là, donc, on arrive avec le décès d'un proche, tout d'un coup, on partage la nouvelle, etc. Puis là, il arrive... Nouveau phénomène, on est tellement rendu, écoute, on a quasiment 80% aux États-Unis de gens qui adhèrent à Facebook, là, puis ici, c'est plus que 60%.
Moi, j'ai
c'est
une question.
Énorme. Oui, vas-y.
Dans les pages mémorables, parce que moi, j'ai très peu de mes amis Facebook qui sont décédés. J'ai un grand homme qui est décédé, puis c'est tout.
Touche-moi.
Oui, oui, en effet. Ben, c'est de la mélamine.
Parce qu'à un moment donné, je conseillais tout le monde là-dessus. Alors, vas-y, les
Donc, page mémoriale, est-ce que c'est une page de fan? Est-ce que c'est comme un groupe?
Non, tu peux se rappeler de quelqu'un? Il y a deux façons que tu peux le faire. C'est-à-dire, par exemple, supposons ma tante est décédée, mon cousin ne savait pas quoi faire, il m'a écrit. Donc, on envoie à Facebook un certificat de décès ou enfin une preuve de décès, la publication qu'il y a eu après. Et Facebook convertit le profil de la personne en profil mémoire. Si
d'accord.
Ça se fait comme ça.
Est-ce qu'il y a une différence au niveau graphique?
Oui, c'est-à-dire que tu vas arrêter de recevoir des notifications. Parce que là, écoute, c'est embêtant. Moi, j'avais une amie qui était décédée, puis avant qu'on trouve les affaires, là, avant que sa famille le fasse, ben on recevait, tu sais, quand est-ce que vous allez écrire à votre amie? Vous n'avez pas écrit à votre amie depuis longtemps, donner des nouvelles. Là, t'es comme, hey, tu peux-tu me lâcher, Facebook? Et là, ils ont trouvé cette solution-là. Mais là, il y a aussi des gens qui créent carrément des pages, déjà comme en page comme ça, pour des personnalités qui sont décédées. Puis là, ben les médias sociaux servent pour diffuser l'information du décès d'un proche, aussi pour rejoindre, on veut rejoindre plus de monde. Puis là, la nature publique, ce que tu disais tantôt des réseaux sociaux, ça fait que l'information, même si c'est ma tante qui est décédée, ça va rejoindre des étrangers. Parce que tu sais, à un moment donné, quand on a 1200 amis, là, c'est pas toutes nos meilleurs amis, hein, fait que, ou 5000, là. Donc, les gens vont se mettre à participer à tes manifestations de deuil, puis ils vont commencer à venir eux aussi publier. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des théoriciennes comme Marwick, Alice Marwick, puis Susan Ellison qui disent, il y a des touristes du deuil. Puis là, ça rejoint le phénomène des deuils de célébrités qui se raccrochent à toutes les expressions deuil liées à des personnes connues ou moins connues. Hein. Des fois, ça peut être juste le livreur du coin qui est décédé, puis il décide aux autres qui vont aller là. Puis là, parfois, ces touristes-là, c'est des trolls. C'est des petits pas fins qui s'en viennent sur la page, puis ils vont se moquer du deuil d'autrui. Ils vont dire « tu te connaissais même pas vraiment », etc. Et là, c'est là que ça dérape souvent. Puis ça se passe juste sur les réseaux sociaux, parce que, avez-vous déjà vu quelqu'un au salon funéraire, là, à part d'un film, qui se lève, puis qui dit « hey, il était même pas fin, puis à part ça, l'avez-vous vu quand il trichait sa femme? » Ça arrive pas. Non. Que tu vois, mais sur les réseaux sociaux, c'est fréquent. Puis ça, les théoriciens, les théoriciennes que je vous citais, sont allés voir, puis ils se sont fait dire que dans les salons funéraires, ça n'arrive pas. Là. C'est vraiment très, très marginal comme phénomène.
Le décorum est entretenu.
Oui, c'est ça. C'est un lieu fait pour ça. Mais là, l'expression du deuil a débordé.
C'est ça. Puis il n'y a pas de décorum sur
le web.
Il
n'y en a tellement pas. Écoute, ce qu'on parle souvent quand on est sur le web, on parle, hein, je parlais d'un espèce de contexte social aplati, hein, on va dire en anglais, le vraiment collapse of social context, où est-ce que vraiment, tout d'un coup, quand David Bowie meurt, là, que ce soit ton ami, ton contact, tu sais, tu feras pas une stratégie pour partager ton deuil, tu sais, genre où tu vas juste faire ça une liste, tu sais, que tu vas avoir restreinte sur Facebook ou sur Twitter. Tu vas partager ton deuil bien ouvert avec un hashtag, puis RIP Bowie, puis tu vas voir que tout le monde participe. Et là, tout le monde ouvre les vannes. Puis d'ailleurs, vous serez pas surpris, en 2016, là, parmi les expressions les plus recherchées sur Google, il y avait, bon, bien sûr, Pokémon Go et Donald Trump, mais aussi David Bowie et Prince. Parce que c'est vraiment partout, sur tous les réseaux sociaux, c'est de ça que les gens parlaient.
Vraiment une compulsion. Moi, je vois mes souvenirs aujourd'hui de mes souvenirs Facebook, on this day de Facebook. Puis donc, ça fait un an qu'on sait que David Bowie est décédé. Puis j'ai 4 statues l'année dernière. Moi, j'étais une grande fan de David Bowie et il fallait que je l'exprime. Puis Dieu sait qu'avant cette année, quand il y avait une célébrité que j'aimais bien qui décédait, je me suis tout le temps gardé une petite gêne.
Mais aussi, je pense...
J'ai jamais rien dit, mais là, David Bowie, c'était obligatoire.
C'est ça, il y a ce côté-là. Puis, de plus en plus aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens passent... Tu sais, au début, on exprime notre deuil, puis ensuite, on devient... Beaucoup d'entre nous deviennent des producteurs de contenu. Mm-hmm. Est-ce que ça vous est arrivé de faire un mème ou faire quelque chose, que ce soit pour David Bowie, pour Prince ou pour Arambe, même? Tout le monde en a fait. Puis moi, je voudrais...
C'est mon pénis pour Arambe.
Fallait qu'il le dise. Puis moi, je veux dire, ça me gêne énormément, parce que c'est le seul gars dans place.
Non, mais je l'ai pas fait là.
Bon, OK. Bon, les gens voient pas, heureusement, fait qu'ils croiront bien qu'ils veulent croire. Mais, sauf que, ça m'avait... Bref, je reviens à mon histoire. Je vous rappelez-vous, le 7 janvier 2015, quand il y a eu, justement, l'attentat de Charlie Hebdo?
Oui.
C'est la seule fois où j'ai participé vraiment aussi activement, parce que ça représentait une grosse partie de mon enfance. Mon père était abonné à toutes ces revues-là, fait que j'allais les voler puis je les lisais en cachette. Et j'ai fait comme moi-même, j'ai sorti mes crayons, j'ai fait une caricature, tu sais, des caricaturistes avec, tu sais, puis je l'ai publié en ligne.
Donc, productrice de contenu. Ouais,
je suis devenue productrice de contenu et on l'a vu. Puis là, je l'ai pas fait pour Bowie, probablement, parce que j'avais trop de choses à faire, mais on l'a vu. J'ai vu beaucoup, moi, de gens autour qui ont fait des dessins de Prince, qui ont monté des vidéos... sur Bowie, Prince, etc., et qui les ont publiés. Mm-hmm. On l'a vu aussi avec Carrie Fisher récemment, à cause de la signification pour les filles profondes aussi qu'elle avait. Fait qu'on a vu ça vraiment se passer de... Tu sais, je veux dire, de slacktiviste, si tu veux, à littéralement producteur de contenu. On ne fait plus juste être relayeur. On dit, moi, je prends part à ça, puis je vais aussi publier des contenus.
On a fait une émission complète de Papa en Stock suite au décès de David Bowie.
Oui.
Ben, on s'est tous mobilisés pour produire du contenu.
Vous êtes devenus des producteurs de contenu, puis vous l'avez probablement relayé sur les réseaux sociaux. Vous avez dit ce que vous alliez faire, puis tout ça.
Non, malheureusement, à cause de la qualité audio,
mais j'ai
on n'a pas
un
pu
GIF
le relayer.
Oui, c'est dommage parce que...
Ben, tu as fait un GIF animé.
Oui,
c'est dommage parce que la mort de David Bowie est arrivée pendant que j'étais à l'extérieur du pays, dans un environnement où j'avais de la difficulté à avoir du réseau. Donc, je l'ai su par quelqu'un qui me l'a dit, et j'étais à l'extérieur du pays, j'étais pas avec tous mes proches, et je l'ai vécu un peu en solitaire, ce deuil-là. Tu sais, je me lève le matin, je suis en train de prendre mon déjeuner dans le lobby de l'hôtel, puis je broille, puis aucune censure, là, puis je suis comme « Il signifiait tellement pour moi! » Puis c'est un peu ridicule, mais cette émission-là a été enregistrée la journée de mon retour, alors j'ai pas pu y participer. Fait que, puis c'est ça, puis j'ai décidé de me tatouer du Bowie à la place.
Ben, non, mais tu vois, regarde, justement, c'est quand je te dis produire soi-même, là, puis il y a des gens qui vont appeler ça des actes de deuil performatifs. Un tatouage, il y a quelque chose de plus performatif, dans le fond, comme personne que tu peux faire. Puis il y a ceux qui sont cyniques vont justement dire, ben là, c'est ça, hein, et c'est encore à propos de toi, fait que mets-toi en vedette, puis parle de la fois que David Bowie, t'avais 14 ans, puis t'écoutais, tu sais, son show, puis tout ça, tu sais.
Mais en même temps, c'est en préparation de l'émission, j'essaie de trouver une réflexion pertinente par rapport au décès, puis je constate que l'émission est vraiment en train de prendre une tournure où est-ce qu'on parle du décès à l'ère des réseaux sociaux, parce que c'est évidemment, avec la présence d'Internet, ça change beaucoup de trucs. Une des affaires que je vous permets de démentir, moi c'est une impression très personnelle, j'ai l'impression que la faucheuse de 2016, au début, tout le monde était en forme et tout le monde avait cette espèce de... parce que vous avez utilisé assez de mots, puis vous avez un peu décrit ce phénomène-là. Les gens étaient capables d'écrire un poème ou d'écrire un énorme paragraphe.
De pavé,
c'est ça, ils étaient capables de livrer ça. Et j'ai l'impression que de plus en plus que l'année a avancé, on a transitionné vers quelque chose qui était plus... Tu sais, au début, c'était de la tristesse, puis à la fin, c'était de la colère.
Et non pas seulement
dans ces types d'émotions-là, mais aussi, au début, on voulait, comme tu dis, s'inscrire dans ce deuil-là. Je comprends pourquoi Bowie est important et je veux que vous sachiez pourquoi il est important pour moi. Et à la fin, on était rendu à, encore pour reprendre ton expression, aplatir le deuil de la manière, à mon avis, la plus embarrassante et dommage, où on avait réussi à tout convertir, cette colère-là, vers l'année. Ouais. Donc, rendu vers octobre, fin octobre, novembre et décembre, les gens n'étaient plus aussi loquaces par rapport à leur deuil, leur peine. C'était juste, j'ai assez hâte que 2016 termine.
La mémétique dirait que la haine de l'année 2016 est devenue un mème en soi.
Mais ça devient dommage parce que là, on n'est plus dans la dynamique de partage de quelque chose d'important. Mm-hmm. C'est comme si tout ce qu'on veut dire, c'est « je t'ai écœuré qu'il y a du monde qui meurt ».
Mais oublie pas que c'est un phénomène d'emballement aussi. Ouais. Parce qu'oublie pas que quand tu te retrouves à l'automne, puis que des mots-clés comme R.I.P. David Bowie, puis ça, sont encore en tête des palmarès, il y a un phénomène aussi où, bon, t'as Facebook avec le mémorial, etc. Mais Facebook, c'est un système un peu plus fermé. Twitter, présentement, est rendu vraiment un vecteur de toutes sortes d'informations et beaucoup d'informations négatives aussi. Ouais, là.
Absolument.
Et là, c'est là où est-ce que tout d'un coup, il y a des chercheurs d'ailleurs, des filles de l'Université de Washington, c'est Césarée Branstad, qui ont fait une conférence l'été dernier, j'en avais parlé déjà sur Twitter, où ils ont regardé des avis de décès, puis comment les gens parlaient de ça. Et le plus beau dans ça, là, si on veut dégager le plus beau, c'est comment est-ce qu'on arrive, tout le monde en parlant d'un deuil, même de quelqu'un qui n'est pas très connu, à donner un sens à ça dans notre vie, puis vraiment à se dire, ben, des fois même on dégage des causes sociales de ça, on va se dire, ben, telle personne, si elle est décédée, c'est peut-être parce qu'on met pas assez d'attention sur la prévention de la maladie mentale, on s'occupe pas assez, par exemple, des itinérants, on s'occupe pas de ci, fait que là, on va commencer comme à sortir des choses comme ça. C'est sûr qu'avec des vedettes comme Bowie, puis tout ça, là, c'est vraiment, tu sais, c'est comme, c'est la poule aux œufs d'or, littéralement, qui décède. Là, c'est vraiment, c'est la source. Mais moi, je pense que vraiment, même pour les vedettes, on va parler de leur legs aussi. Tu sais, en début d'émission, on parlait, puis même, je pense, avant l'émission, on parlait comment Bowie a été important pour tout ce qui est LGBTQ, etc., pour les gens qui veulent vraiment qu'on arrête, justement, de tout genrer, puis de capoter sur si c'est vrai qu'il est gay, qu'il est pas gay, etc., plutôt que de, genre, c'est qui cette personne-là. Ben lui, il a vraiment, il représente ça. Prince, dans son espèce de côté chat sauvage, là, tu sais, où est-ce qu'il ne parlait pas aux médias, puis tout ça, il représente l'espèce de petit artiste blessé, tu sais, le petit prince, littéralement, tu sais, il a symbolisé tout ça.
De virtuose romantique aussi qui la musique sortait de sa tête.
Il y avait deux choses dans sa vie, les quelques femmes genre qui entraînaient dans la musique et la musique. T'sais, c'est du monde, c'est des phénomènes, mais ça veut pas dire que quelqu'un qui meurt sur le coin de la rue qui est pas comme intéressant.
Non, absolument pas.
Puis on va trouver quelque chose, puis c'est là qu'on voit. Mais moi, je pense vraiment l'écœurement que tu vois là quand t'es rendu avec des hashtags pour des attentats terroristes aux deux minutes, là, tu viens plus un petit peu du moment de la mort, là, tu sais.
Mais c'était plus un constat sur c'est dommage que l'on se soit tanné de dire pourquoi ces gens-là sont importants pour nous, ou de déclarer, plutôt, pourquoi ces gens-là étaient importants pour nous, puis qu'on était rendu à un... c'est ça, c'est un aplatissement. On était rendu que toute mort s'équivaut.
Le contexte social est disparu.
C'est juste 2016. Puis t'es comme, ben oui, mais...
Je pense que l'automne a été dur, hein, sérieux. Je veux pas parler de politique américaine, là, mais il y a eu plein d'affaires qui ont pas été faciles pour beaucoup de monde.
L'été aussi, je veux dire, on parlait de tuerie, là, tu sais, puis mettons qu'on parle de la mort de célébrité, mais qu'on parle aussi de la mort publicisée, là, si je peux dire.
Tout à fait.
La mort de gens qui étaient pas connus, mais qui représentent quelque chose. Encore une fois, si on peut parler de l'attentat dans le club en Floride, Orlando, qui était une des plus grandes tueries aux États-Unis, qui s'adonnait à être un geste de haine LGBTQ qu'on a refusé de nommer, un peu comme on a longtemps refusé de dire que Polytechnique c'était un geste antiféministe, tu sais que ça a pris du temps avant que ça soit vraiment comme arrêté de vouloir vouloir nier ça. C'est ce qui s'est passé. Il faut en parler.
C'est
de
pas
ça.
Juste un attentat terroriste.
C'est pas ça. Juste ça, voilà. Puis c'est insultant pour les communautés lorsque vous refusez de le faire. Puis si je peux faire un lien avec Arambe. Et je sais que je fais un peu chose du coq à l'âne, mais Arambe, sa mort était au début de l'ordre du fait divers, mais a fait ensuite mettre en lumière des enjeux par rapport à l'éthique animale, tu sais.
Ouais.
Et là, c'est une mort qui a été publicisée, qui a été utilisée pour rendre en mime, mais qui devient un vecteur ça devient une représentation de la problématique. Quand on vous parle de ça, moi, je travaille à la mission Brary, là, puis je le vois, là, que ma job qui est en ce moment, qui est dans les médias, parce qu'il y a Jimmy Cloutier qui a été tiré à bout portant vendredi passé, ça fait partie d'une problématique qui est beaucoup plus grande que cette personne-là, qui fait partie de est-ce qu'on a bien formé nos policiers à intervenir en cas de santé mentale et en cas d'itinérance. C'est de se dire que ces morts-là qui deviennent d'ordre public, cette personne-là n'avait pas l'intention d'être une personne publique,
pas
mais qui devient un symbole.
C'est parce qu'il devient un symbole, comme on disait, justement, de questions liées ou des préoccupations à la santé mentale, sécurité publique, que ce soit contrôle des armes. Fait qu'ils symbolisent, eux autres aussi, quelque chose de plus large que leur vie, finalement. Puis je pense que c'est vraiment là-dessus. Puis c'est drôle parce que les chercheurs, là, dont je vous parlais, là, à propos du projet Twitter, c'est ce qu'ils constataient. Même quand tu parles de quelqu'un, justement, comme Jimmy Cloutier, qui, commet un crime, puis se fait abattre parce qu'il y a un problème de santé mentale, alors qu'il y aurait pu être, on peut imaginer qu'il aurait pu être désarmé plus facilement s'il y avait d'autres méthodes d'intervention, là. Mais on peut très bien comprendre que les gens, quand ils en discutent, ils arrivent à ces constats-là, ils se disent, ben, coudonc, on n'est pas équipé pour faire face à la santé mentale. Et là, ça nous permet pas de, je dirais, d'aller mieux, mais de se réconcilier un peu, tu sais, avec ces morts-là qui sont des fois, qui sont difficiles à prendre pour l'entourage, là. Puis pour les gens en général aussi, c'est ça. Puis moi, je pense qu'il y a vraiment une ouverture, là, parce que avant, là, quelqu'un comme ça serait décédé, t'aurais une petite nouvelle de rien avant les réseaux sociaux, t'en aurais pas entendu parler sauf sur une ligne ouverte ou deux, puis ça aurait été toutes des opinions alambiquées.
Je pense que ça dépend, en fait, des morts. Il y a des fois des faits divers qui on parle encore de l'incendie au Laurier Palace. Chappé aussi. Oui. Laurier Palace, ça fait 100 ans. Oui. Non, 90 ans. me semble. C'était l'anniversaire comme en fin de semaine. Soit 49 petites personnes sont décédées dans un cinéma.
On va dire des enfants. Et oui. Non pas petites personnes.
Désolée, ah, c'est vrai, t'as raison. J'ai
ouais, raison, désolée. Ouais, moi aussi, je m'imaginais dans... J'étais comme, wow, c'est comme...
Non, mais je voulais dire des petits êtres humains, des enfants,
ouais.
Un incendie vraiment majeur dans un cinéma, puis on en parle encore.
Mais il y en avait... Mais ça, c'était vraiment des événements phares, tu sais, comme Chappais. Oui. Je veux dire, moi, je peux pas m'en rappeler pour en tant que tel, mais j'ai entendu mes parents en parler, j'ai vu des reportages, mais tu sais, il y en avait peut-être un par décennie, mais là, tu vois, les cas des itinérants battus là, pour des questions de santé mentale, il y en a eu 4-5, puis on ressort les noms, puis les gens rediscutent autour de ça. Je pense qu'il y a plus de discussions qui se fait. Parce que, tu sais, il faut vraiment que tu aies une masse de 50 personnes qui meurent de façon tragique pour que les gens, tu sais, comme ça fasse un événement fort. Mais là, tu as juste une personne. Puis je sais pas, faudrait étudier la couverture médiatique là-dessus. Je l'ai pas fait, là. Mais est-ce qu'une personne qui mourait, il y a eu des choses comme Rodney King aux États-Unis.
Barnabé ici.
Oui, exactement. Mmh. Mais tu sais, c'était vraiment, fallait que ça soit très, très spectaculaire, pour que ça, que ça fasse, tu sais, que ça... Ça se cristallise. Puis il y a aussi Rodney King, si je ne me trompe pas, c'était dans le temps où les télés en direct avaient commencé là, à rouler.
Oui, puis il y avait une technologie de
qui permettait de capter. Mobile. Exactement, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Puis ça a changé aussi là, notre perception des événements. Là.
Silence.
Tout d'un coup, il y a eu comme un silence de mort. Je suis vraiment mal.
Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que non seulement... En d'autres mots, les décès de personnalités publiques, de célébrités, peuvent devenir effectivement des symboles. Leurs vies sont souvent réécrites à l'aune de leur décès. Moi, j'ai appris plein de choses au sujet de George Michael, dont je suis fan pourtant depuis que je suis toute petite, notamment qu'il avait soutenu la grève des miniers en 1984 en Grande-Bretagne. Je ne savais pas pantoute. Mais aussi des décès de personnes moins connues, mais qui ont une vie publique à travers des réseaux sociaux. Elles aussi peuvent prendre des nouvelles significations. Ouais. Elles sont en quelque part réécrites. Donc, c'est le macro rejoint le micro.
Oui, puis il y a comme aussi, tu sais, il y a une consignation qui se fait, qui n'aurait pas été avant, je pense. Puis ça, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'était de voir, moi, ça, l'histoire là, sur Twitter, puis le deuil, tu peux le faire. Hein? Puis moi, j'ai fait l'exercice, tu peux prendre, je pense obituary, mais vous allez me dire le mot en français.
Eulogie, je pense.
Oui, c'est ça. La
notice nécrologique.
Ben, exactement, voilà, la nécrologie. Bon, je sais pas comment ça, des fois, je pense en anglais. C'est vraiment
je pense
problème.
Tout le temps en anglais.
OK, d'accord. C'est de la culture pop qui nous fait ça. Mais tu peux prendre ça, aller chercher un nom. Puis j'ai fait le test après avoir lu l'article de Brandstadt et Césarée. Tu vas chercher un nom, puis des fois, tu vas trouver... Et justement, des gens qui en ont discuté sur Twitter, parce que, tu sais, Twitter, c'est très ouvert comme système. Et là, tu vas t'apercevoir que, quand il y a quelque chose qui est affiché, tu sais, il y a des gens qui en parlent, puis ça suscite des conversations, puis il y a des touristes du deuil, justement, qui s'en viennent là-dessus, puis ils disent, ah oui, c'est tellement triste quand ça arrive, ça, hein, c'est donc plate. Il y en a des pas fins qui disent, on s'en sac, puis il devait être le BS ou je sais pas quoi, là. Tu sais, mais c'est vraiment, c'est des. Sauf que c'est là.
Il y a des pleureuses sur Twitter.
Oui, il y en a. C'est malade. Oui, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a sur Instagram aussi maintenant. Vous savez que les funérailles sur Instagram, c'est une grosse affaire maintenant.
Non,
aussi.
Je n'étais pas au courant.
J'avais vu des articles du type BuzzFeed, des pires photos en funérailles, tu sais, mettons, d'une jeune fille qui est comme Yo, grand-papa.
Je sais, mais sais-tu quoi? Les gens ont toujours fait ça, je pense. Avant, ils ne mettaient pas sur Instagram. Parce que je me suis rappelée là, d'affaires vraiment, tu sais, tu vois des funérailles d'un mononcle lointain quelque part en campagne, puis le monde se font photographier proche de la tombe. En ville, on faisait pas ça, nous
mais
autres.
Mais il y avait pas une mode, mais qu'il fallait, avant de mettre le corps en tombe, il fallait faire une fausse photo de famille avec la personne qui était décédée, mais qui était quand même habillée, qui était mise sur une chaise. Donc
ça, c'est
vraiment 19e siècle, fin 19e siècle, les photos, genre, tu sais, t'as l'enfant là, sur les genoux de sa mère avant de le mettre en terre, etc. Mm. Mais vraiment, vous allez trouver même, il y a des articles qui sont parus récemment cette année là-dessus sur, c'est vraiment sur les funérailles et Instagram. Puis là, j'ai dit, mais ils sont pas sérieux. Fait que je suis allée faire hashtag funérailles, hashtag RIP sur Instagram et j'ai vu des photos. Et c'est pas juste en Amérique du Sud, ça, c'est vraiment aux États-Unis, partout. Les filles de 16 ans comme ça, je lève les mains avec
on fait des signes de peace.
C'est
pour
ça, genre, à côté du cercueil de grand-papa. Puis là, j'ai fait, oh my God. Et la dernière fois que je suis allée à des funérailles, malheureusement, j'ai remarqué qu'il y avait du monde, effectivement, qui se photographiait. Ouais. J'osais espérer qu'il allait pas envoyer ça sur Instagram.
Et ça, c'est une des raisons pourquoi je serais incinérée. Parce que ça n'arrivera pas.
C'est... Mais t'imagines, on en est là. C'est vraiment, c'est comme on partage tout. Puis autant avant la mort, c'était au salon funéraire que ça se passait. Il y a été avant une époque où c'était dans les maisons, mais tu sais, c'était tout se faisait. Tu sais, je dis, c'était vraiment feutré. On avait comme tu sais, des usages justement, tout ça. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a comme une digue qui éclatait quelque part, hein, puis on est avec notre téléphone, puis on se photographie devant le cercueil, puis après ça, on pose ça. Puis moi, j'ai vu même des gens, là, tu sais, écoute, au salon, prendre des photos, puis je me disais, il me semble que c'est étrange, on voyait pas ça avant, autant comme ça, parce que les gens avaient pas tous un appareil photo sur eux, premièrement. Fait que là, ils l'ont, puis en plus, ils peuvent publier instantanément. Fait que là, il va peut-être falloir qu'ils coupent le Wi-Fi dans les salons funéraires, mais ça, c'est une autre histoire.
Des brouilleurs.
Mais je sais pas si... peut-être que vous allez en parler, là, mais ce que j'ai trouvé fascinant aussi avec la mort des célébrités, c'est que oui, il y avait un... on dirait qu'il y avait comme deux mouvements, souvent, à la mort, pas tout le temps, mais il y a souvent eu comme deux vagues. Il y a eu la première vague de deuil et d'hommage et tout ça. Et il y a la deuxième vague qui devenait comme une espèce de... Là, là, c'est beau, là, ça fait un mois là, qu'on dit qu'on... Mais oubliez pas tous les mauvaises choses, actions. Et là, tout d'un coup, on veut dépeindre aussi le côté sombre des personnalités et dire tous les
abus.
Tous les abus, tous les écarts de conduite, puis tout ça pour se dire, regardez, arrêtez de le rendre...
Sanctifier.
Pas la peine de le canoniser, ce n'était pas un saint, donc calmez-vous le pompon.
Il y a aussi, je pense qu'il y a une troisième voie qui est, rappelez-vous la série, rappelez-vous comme l'endroit du monde où ça va vraiment mal, votre petit deuil là,
c'est vrai, ça.
De first class.
Contextualisation,
Ouais, puis ça, c'est vraiment, c'est comme, il y a toujours pire, sérieusement, là, que c'est un exclut pas l'autre, puis tout ça. Mais il y a des blogueurs, même là-dessus, vous pourrez regarder, qui en ont parlé, qui sont insurgés, justement, contre cette tendance-là, où est-ce que les réseaux sociaux, il y a des journées, sérieusement, là, avec, surtout 2016, où, honnêtement, on ne voyait que ça, là, que des discussions sur le deuil des vedettes décédées. Et là, t'avais toujours, comme tu dis, la vague de, tout le monde est vraiment épaté, on est en peine, etc. Puis ensuite, la vague de, wow, ils n'ont pas fait que des bonnes choses. Puis, vraiment, les gens disent, les politiciens surtout le subissent beaucoup. Ben, vous regardez justement récemment les controverses qu'il y a eu. C'est genre, tout d'un coup, tu pars de c'était pas pire à justement des gens qui se mettent à avoir là, des mots très, très mesquins par rapport à ça. Et ça peut justement virer là, comme ça, en, je dirais littéralement, là, en, j'allais dire en diatribe. Des fois, j'ai comme des mots comme ça qui me viennent, puis je me dis, c'est vraiment pertinent de le dire.
Ouais.
Je pense que ça, c'est assez pas pire aussi.
C'est drôle parce que je ramasse encore les bribes de ce que vous êtes en train de dire à gauche et à droite. J'avais préparé un truc qui s'appelle la harambée entre post-vérité et néo-sincérité parce que les réflexes académiques sont assez difficiles à évacuer.
Moi, j'en ai tellement pas beaucoup de ça, mais en tout cas, oui.
J'aime ça, ça me donne le sentiment de finitude par rapport à quelque chose. C'est quand j'arrive à un titre qui circonscrit parfaitement bien ce que j'essaie de dire. Puis on va le tester, ce titre-là, parce que peut-être que ça va faire patate pour faire suite à ma couille de tantôt. si vous pouvez imaginer des contextes où, dans un sondage électoral entre Donald Trump et Hillary Clinton, il reçoit 5% des votes d'approbation. On entend crier son nom en finale du PGA, du Pro Golf Association Tour. On avance des pétitions pour renommer les Bengals de Cincinnati en son honneur. 1200 signatures pour changer le nom de Winston dans le jeu de Blizzard Overwatch. Des statues. On veut le rendre un Pokémon. On veut mettre son visage sur le billet de 50$. Et au final, on demande rien de moins que changer le nom de la ville de Cincinnati pour la rebaptiser Harambee.
Est-ce qu'il va y avoir, tu penses, Jean-Michel, un animal comme ça? Il y avait eu Cécile de Lion il y a 2 ans. Là, il y a Harambee. Est-ce qu'on va en avoir un chaque année?
Cécile n'est rien en comparaison à Harambee.
Moi, j'ai beaucoup plus entendu parler de Cécile.
Oui, c'est ça qui dépend des filtres.
Harambee. Harambee, ben, tu parlais tantôt de canonisation, je vais m'y rendre, tu vas voir.
Mais tu vois, c'est la différence, c'est, je pense qu'on en a beaucoup parlé lorsque c'est arrivé, puis Harambee, il y a eu un genre de moment de gestation pendant comme presque 6 mois, puis quand c'est sorti, voilà.
Mais je pense aussi que c'est plus proche de nous, hein. Tu sais, Cécile s'est fait tuer en Afrique, on va se le dire, là, par un dentiste qui aime chasser. Tandis que là, ça se passe vraiment dans un contexte où, tu sais, il y a quelque chose d'éthique, là, mais dans notre.
C'est ça. Je vous laisse aller à votre interprétation pour m'amuser, mais essentiellement, c'est parce qu'il y a une ambiguïté au sein du récit de Harambee qui n'existe pas chez Cécile. Le fait qui vient appuyer ça, c'est qu'on a suivi les représailles légales de ce dentiste qui doit brûler à jamais. Et lorsqu'il y a eu le moment où tous les tout ce qu'on a pu lui infliger lui est arrivé, ça a fini le dossier. Le truc avec Arambe, c'est qu'il y a une ambiguïté morale qui fait en sorte que l'on ne peut pas se positionner d'une place ou de l'autre. Hélène, parce que tu dis que t'es un peu dans un flou, je te ramène le 27 mai 2016, j'ai écrit 20016 dans mes notes, c'est le 17e anniversaire du Gorée Arambe dans le zoo de Cincinnati. Le lendemain, à 16h précisément, un jeune garçon de 3 ans, en fait, je dis garçon, c'est...
C'est un enfant.
C'est des détails qu'on n'a pas eu le droit de révéler au public.
Il était peut-être non-binaire. Hein?
Potentiellement.
C'est très possible.
Tombe accidentellement dans l'enclos d'Arambe. Arambe se projette dessus, le tira et ira s'asseoir sur le jeune garçon. Évidemment.
Il va s'asseoir sur le jeune garçon.
Sur le jeune. Okay. Ben, j'ai dit garçon encore. Sur le jeune enfant. Oui. Pas sur la petite personne.
Non, je me suis trompé, je m'excuse.
C'est super correct, je fais les choses encore back. Donc, la sécurité tire le gorille. Certains disent que la sécurité n'aurait pas dû exercer les mesures si extrêmes. D'autres ajoutent que le gorille, en faisant ça, ne tentait que de signifier qu'il protégeait l'enfant pour le moment, mais c'est pas ça qui est arrivé. Au lieu d'utiliser des tranquillisateurs, chose qu'on aurait dû faire, on l'a descendu à coups de balle. L'objectif était clairement de sauver la situation face aux yeux de la mère, paniquée, et de l'enfant, mais ça l'a provoqué une mort. Et la naissance d'un martyr.
Oui, oui.
Et autant qu'on travaille sur la figure du croque-mitaine virtuel à Pop en Stock beaucoup avec Slenderman, j'ai l'impression qu'Arambe est le véritable martyr virtuel par excellence. La première fois qu'on faisait un martyr de toute pièce, on prenait une figure creuse et on investissait notre imaginaire. C'est quand même très important parce que c'est pas n'importe quel martyr, c'est un gorille. C'est une figure publique qu'on a hissée par le pur pouvoir de l'Internet. S'il n'y avait pas l'Internet, il n'y aurait pas
On n'aurait presque pas entendu parler, vu qu'il y avait peu d'éléments, comme tu dis, de l'enquête qui ont transpiré.
Exactement. C'est ce que j'appelle la canonisation à l'ère de Reddit. Ouais. On est à un moment où on est capable de faire...
T'ouvres un fil de conversation, puis ça dure deux ans sur cette histoire-là.
Exactement.
Et ça dure deux ans, mais ça... Et puis c'est encore un truc sous-jacent que je vois dans l'émission, c'est que ça met à l'air, ou ça met en lumière des vicissitudes du comportement humain.
Ben oui, mais c'est ça, les questions sociales, ils sont là
on
parce
les a
que,
dans le visage.
Comme tu dis, on aurait pu utiliser des fléchettes tranquillisantes, à la place, on a tiré tout de suite. Là, tu poses les mêmes questions, genre, c'est quoi la valeur qu'on accorde aux animaux,
exactement.
Dans le fond, dans tout ça, puis la question des zoos aussi, qui nous fait vraiment réfléchir.
Mais c'est là où vient l'ambiguïté et le double tranchant de la blague qui est Arambe. Parce que on a souligné le sous-texte raciste de cette canonisation-là, de la réutilisation, elle a été refutée. Évidemment, parce que le symbole, là, je vais vraiment utiliser symbole et figure.
Excuse, qu'est-ce que tu voulais dire par...
Je pense le racisme qui t'a accroché,
ouais,
c'est ça, moi aussi.
Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Ben, en fait, c'est pas une interprétation personnelle.
Non,
c'est vraiment les attaques qui ont été faites, je vais clarifier. C'est cette idée-là, ben, en fait, je vais la refuter ensuite, je vais la définir.
OK.
Je vais la refuter parce que Il y a des membres de la communauté afro-américaine qui ont été instrumentales dans la pullulation de ce mème-là.
Okay.
Donc, au début, qu'est-ce qu'on voyait, c'était des accusations racistes dans la réutilisation d'un archétype dévalorisant. Mais Arambe est devenu très rapidement la façon pour des acteurs dans la communauté afro-américaine de parler et de souligner les injustices et les violences qui sont vécues par les minorités aux États-Unis.
Je veux juste comme vraiment là, faire de la double énonciation puis appuyer bien comme il faut. C'est parce qu'effectivement, aux États-Unis, il y a souvent, je pense, puis on l'a vu même en France, où on ne se gênera pas pour comparer des fois le physique des Afro-Américains et de certains.
C'est dans cette direction-là. C'est dans la direction phrénologique.
C'est très intéressant ce que tu dis par rapport à...
C'est pas tout à fait ça.
Non, mais c'est plus par rapport à ce que tu disais avant, par rapport au combat des minorités.
Ouais.
Ça me fait beaucoup penser, en fait, à tout le combat des écoféministes qui dit que la façon dont on traite les animaux est représentative de la façon dont on traite les femmes, que les comportements d'oppression, d'animalisation de l'animal et de la féminisation
des
animaux.
Et même des plus faibles, en général.
Exactement.
Si on élargissait, je pense.
Fait que c'est ça, on parle d'écoféministes, mais dans le fond, il pourrait avoir un écho combat des combats des droits civiques ou je ne sais quoi là, tu sais, justement dans ce sens-là,
la double ambiguïté qui existe avec le personnage d'Arambe et définitivement dans cette idée-là, j'ai fait ce raccourci-là.
Comme Christine Taubira qu'on représentait là, en singe dans les médias puis tout ça.
Et
là,
c'est arrivé aussi simultanément avec le flame war extrêmement désagréable que j'aurais aimé taire, mais que maintenant j'aurais à évoquer concernant l'actrice qui jouait dans Ghostbusters.
Ah oui, oui,
qui
oui.
Qui a souvent été utilisée dans...
Avec entre autres un intervenant là, sur Twitter qui l'a harcelé littéralement, là, qui est une personnalité. Là,
en récupérant beaucoup le personnage d'Arambe. En fait, qu'est-ce qui est très intéressant avec le cas de figure d'Arambe, c'est qu'il était capable de mettre en profil, mettre en relief cette idée-là que, simultanément, la semaine de son décès, il y a 1000 personnes qui sont mortes sur des radeaux à essayer de traverser la mer Méditerranéenne pour trouver refuge en Europe. Mmh. Et là, ce paradoxe ou cette hypocrisie a trouvé son comble. Les gens ont fait, vous ne pouvez pas parler d'un goring pendant qu'il y a autant de souffrance. C'est pour ça que je venais connecter un peu qu'est-ce que vous étiez en train de dire.
Oui, mais il y a quelque chose d'intéressant parce que tu vois, ces animaux-là, on va les chercher en Afrique, ces gorilles-là. Ouais. On les retire de leur milieu naturel où d'ailleurs ils sont chassés par des amis de Cecil the Lion puis tout ça, là, ceux qui... Et là, on prend de grands moyens pour les transporter au subsistance. Je suis en train de penser au film de...
Oui, mais...
Tu te rappelles le film de Gorille, bon Dieu?
King Kong?
King Kong,
je me rendais à King Kong.
J'étais en train de penser à lui qu'on a transporté à bord d'un bateau, mais tu sais, on les transporte comme ça pendant que des humains, justement, qui coûteraient probablement beaucoup moins cher à réinstaller, meurent en essayant de faire la grande traversée. Ouais. Il y a quand même un paradoxe là, auquel il faut réfléchir. Je veux dire, quand tu dis qu'on amène des girafes d'Afrique, etc., pour les voir, des éléphants, ça doit coûter une fortune, honnêtement. Je suis en train de penser à ça, là. Ça doit coûter pas mal plus cher que d'installer, tu sais, je veux dire, 100 personnes qui sont sur un radeau dans un bateau pour les amener en lieu sûr.
Puis c'est cette réflexion-là, c'est une piste de réflexion qui a été...
Mais cette hypocrisie-là revient à la même critique qu'on disait tout à l'heure sur les attentats terroristes. Si tu t'inquiètes d'un attentat terroriste qui a fait 2-3 morts aux États-Unis, puis que t'es pas en train de parler des attentats, mettons, qui a plus lieu au Moyen-Orient...
Ou de la situation qui persiste en
Exactement,
Syrie,
exactement. Puis que là, tout d'un coup, tu deviens... Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire là-dessus. Je pense que... est-ce que c'est juste une question conséquentialiste? Est-ce que c'est juste une question de nombre? Ou est-ce qu'il y a quand même une question partielle de partialité que Arambe était plus proche de nous et qu'il faut le tenir en compte dans notre pis façon de vivre notre deuil ou dans notre façon de...
T'as deux côtés. T'as le côté du luxe de pouvoir vivre le deuil d'Arambe versus, justement, le dénuement total du fait que des centaines d'humains peuvent mourir tout le temps. Et là, on est face à ce paradoxe-là.
Mais t'as dit... J'ai eu un flash, là. T'as dit qu'il y aurait-tu un nouveau Cécile, un nouveau Arambe? On l'a, là? Tilikum qui est mort? Cette semaine?
Mais je l'ai pas vu celle-là.
Oui, Tilikum est mort, je pense, hier ou avant-hier, là. Il y a tout récemment. Donc, c'est notre.
C'est notre animal de l'année.
C'est notre animal de l'année.
Mais en même temps, c'est pas tout à fait. Nous verrons ce qui arrivera de...
Elisabeth et moi, on fait du chemin, là. Tu m'excuseras, mais on est pas.
Je constate qu'il me reste 2 minutes 20 pour être capable de compléter ce truc-là. C'est qu'il vient quelque chose de très intéressant avec un personnage comme Arambe. C'est que les questions que vous posez proviennent clairement de votre background politique, de vos croyances. Et là, ça fait en sorte que les gens qui sont nommément appelés progressistes peuvent réfléchir au climat sociopolitique. Mais en même temps, de l'autre côté, les gens qui sont beaucoup plus conservateurs sont capables de se moquer de cette hystérie progressiste-là en utilisant Arambe.
Tout à fait.
Donc on peut pointer cette moquerie-là. Il va même aussi avec des gens qui veulent utiliser Arambe pour être offusquant. Donc, pour faire ces rapprochements malhabiles avec le racisme.
Tout le temps dans la promotion, Jean-Michel, avoue quand même, on prend quelque chose, moi, qui ai travaillé longtemps en marketing, ça me fascine comment est-ce que tout ce qu'on prend, on fait un cycle de promotion avec, tu sais, Connie, là, 2012, tout ça. Je veux dire, n'importe quelle cause, on dirait qu'on sent le besoin de faire un cycle de promotion, d'aller jusqu'au bout. Je sais pas ce qu'on a à vendre au final, là, mais on a des idées sûrement, mais c'est un peu ça, là.
Ben, c'est qu'il y a un combat idéologique. Et cette coquille vide que je décris, qui est Arambe, permet d'être capable de mettre un objet en plein milieu de la conversation. Et elle peut être regardée des deux bords du spectre politique.
Quand tu dis qu'il était vide, c'est qu'il incarne ça. C'est ça. Toutes les valeurs qu'on veut mettre dedans rentrent.
Oui, parce que c'est pas comme si le gorille avait une opinion sur quoi que ce soit. C'est nous autres qui donnons vie. Ce que je me rends compte, c'est quelque chose une réflexion qui m'est venue de l'épisode The Satire Paradox, qui est un épisode de la série des podcasts de Malcolm Gladwell, mm-hmm. qui s'appelle Revisionist History, mm-hmm. où il parle du succès de Colbert Report. Colbert Report...
Ah oui, j'ai vu ça, oui.
A ce double statut-là mm-hmm. qu'un conservateur peut le regarder et dire « Oui, il est en train... Ouais. » Il dit les vraies choses.
Ouais.
Et le progressiste de l'autre côté est comme « Regarde comment il se moque des gens qui disent les vraies choses. » Ce cas de figure-là, dans le centre, devient un espèce de lieu d'échange pour des communautés diamétralement opposées.
Oui, t'as la même chose avec John Oliver aussi.
Mais qui joue moins le conservateur, John Oliver.
Ouais. Mais il a déjà été dans son passé.
Il joue moins la satire.
Mais mm-hmm. là, c'est là où Malcolm Gladwell se situe Colbert comme un être parfait.
Ouais.
Et où Arambe, non, mais il devient un être parfait politiquement parlant.
Oui.
Arambe fait le même truc puisque une personne, là je vais y aller grossièrement, j'ai peu de temps, une personne de gauche va réutiliser Arambe pour être grossier, moqueur, tout en étant cynique et ironique.
Mm-hmm.
Ne voudra pas nécessairement faire une blague raciste, mais va faire une joke d'Arambe, quelqu'un va crier Dicks out for Arambe.
Ouais.
Mais en même temps, le plus conservateur, lui, pourra se cacher derrière la même haute voltige intellectuelle. Non, je suis pas raciste, c'est une joke d'Arambe. Donc, le même comportement est enclenché par deux types de réflexions politiques.
C'est quand même affreux ce que tu nous dis, parce que tout est récupéré par les deux côtés, finalement, pour exprimer des points de vue qui sont pas politiquement acceptables.
Exactement. Puis c'est là où vient King Kong, en conclusion. C'est que le Principa Discordia de Malaclaps the Younger, qui est la grande Bible, la grande thèse du discordianisme, nous offrait en premier apôtre King Kong, qui est mort pour nos péchés.
Ouais.
Et je suis prêt au crépuscule de cette émission à être
J'ai pleuré quand il est mort, lui, bon Dieu.
C'est épouvantable.
Ah, dans les rues de New York, à terre, pauvre petit.
Mais Arambe et son fils spirituel, s'il y a le Père et le Fils et le Saint-Esprit, je serais prêt à croire que King Kong est le Père, Arambe est le Fils, le Saint-Esprit viendra. Mais le principe est central. Il créera discorde. Il mm-hmm. y aura discorde autour de ce saint-là. Et c'est un peu ce que je trouvais très intéressant par rapport à Arambe. On doit conclure.
On se remercie mutuellement, vu que notre animatrice, Hélène, devait aller enseigner.
Non, elle a juste fait, OK, je suis plus capable. Mais Nadia, merci énormément.
Merci, Jean-Michel.
Parce qu'on fait domper une conclusion. Oui, c'est vrai. Merci pour les conversations. Toujours le bienvenu. Elisabeth, merci pour les interventions.
Ça fait plaisir.
Toujours le bienvenu. Maxime
Robin.
Avec Blue
Tide. MC.
MC Phyllis, ouais.
Ouais.
Non, c'est son vrai nom.
Ça sera pas au montage final. Ben merci à Jean-Michel.
Merci, bonne émission tout le monde. Bonne semaine, passez un excellent retour en 2017. On vous souhaite plus ou moins de décès, ça dépend de ce que vous préférez.
#RIP